Parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir, place de la République à Paris, pour un apéro géant après la mort de l'ancien dirigeant d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, à 96 ans. Les participants ont répondu notamment aux appels du nouveau parti anticapitaliste et du collectif Les Invertis.
C'est la mort de Jean-Marie Le Pen, qui était une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les 40-50 dernières années, qui a fait progresser toutes les idées d'extrême droite et des idées néo-nazies, comme a pu dire le New York Times aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de voir que ces personnes-là disparaissent. Même si ces idées restent, on les combat toujours.
Tous ensemble, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie.
Je suis contente qu'un raciste soit mort. Il a fait tellement de mal au pays. Et même si je n'étais pas née à ce moment-là, je trouve ça important d'être là en fait.
La peine, sans hésiter, on a le droit, vive la France, d'avoir ce soir notre récompense. On s'est tous retrouvés sur la place du marché pour décider à l'unanimité.
Je ne suis pas sûr que tous ces visages qu'on vient de voir soient une bonne publicité pour les idées qu'ils veulent défendre. Non. Mais bon.
Si tant est qu'ils aient des idées déjà, mais.
Bah, ils en ont, ils en ont des idées. C'est leur l'anti-lepénisme et leur identité.
Oui, c'est
intéressant d'ailleurs. Et ils aiment l'État dans lequel cette détestation les met. Ils ont le sentiment d'être.
Cette détestation les fédère aussi, puisque c'est la seule chose qu'ils.
Non mais c'est
Éric Nolot.
C'est ignoble mais en même temps pas très surprenant parce que la décivilisation c'est pas un mot, c'est une réalité, ça c'est une illustration de la décivilisation. Il y a un moment où il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans l'histoire de France, où à la mort d'un homme on décrétait 24 heures de pause. On évitait de commenter.
Enfin, l'épuration en 45, c'était guère mieux.
Ouais,
si vous me permettez.
L'épuration c'est quand même une période extrêmement
Je pense que de tout temps, ces scènes-là avaient le même pourcentage.
On n'est pas dans une circonstance historique exceptionnelle. On est de la mort d'un homme, quoi qu'on en pense, qui a marqué l'histoire politique française. Après, il y a ceux qui dansent et ceux qui pensent. Moi, tous ces gens de la République, je les invite à penser le fait suivant. On parle beaucoup du point de détail et d'autres déclarations scandaleuses de Jean-Marie Le Pen. Moi, je voudrais leur demander de penser la chose suivante. Comment se fait-il que moi, quand j'avais 20 ans, je parle de ma génération, quand on entendait le nom de Jean-Marie Le Pen, c'était immédiatement synonyme d'antisémitisme. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une majorité, je dis bien une majorité de la communauté juive, vote pour Le Pen ou pour Zemmour ? Comment se fait-il que l'héritier politique le plus direct de Jean-Marie Le Pen soit quelqu'un de confession juive ? Je parle d'Éric Zemmour. Moi, je les invite à penser ça, plutôt que d'être dans ce réflexe pavlovien de danser sur un cadavre.
Alors, voilà. Les personnes de confession juive savent très bien ce que Jean-Marie Le Pen a dit, et le détail,
Sarah Salman.
Le détail de l'histoire, moi, je vais vous dire, c'est ce que je retiens. Hein. Donc, je vous le dis franchement.
Mais c'est ce que je retiens aussi.
Ensuite, oui, c'est ce que je retiens, mais de dire que les personnes de confession juive votent quasi automatiquement pour M. Zemmour ou Mme Le Pen, je vous le dis, vous avez dit une majorité, ça reste à vérifier.
Ah non, ça c'est assez vérifié, pardonnez-moi. C'est à vérifier Éric Zemmour en Israël, le score qu'il a fait.
En Israël, c'est pas représentatif de tous les Français, c'est une partie.
Non, c'est représentatif simplement de la population juive, si vous me permettez, me semble-t-il, au minimum.
Oui,
quand même.
Non plus. C'est-à-dire que ce que disait Éric Jolot, maintenant, c'est vrai que les propos les plus antisémites sont tenus par Jean-Luc Mélenchon. Et quand il fait son tweet en disant « je vais lutter contre l'antisémitisme », c'est l'hôpital qui se fout de la charité.
Écoutez, Madame Le Panneau, et après je donne la parole à Vincent Herouet, Madame Panneau, et puis on écoutera également Monsieur Le Cornu qui était ce matin avec Sonia Mabrouk. Madame Panneau, tout d'abord.
Personne ne danse sur un cadavre, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, personne ne danse sur un cadavre.
Se réjouir
juste
de la mort de quelqu'un, sortir dans la rue, ouvrir des bouteilles de champagne, tirer des feux d'artifice, c'est quand même particulier, non ? Quoi qu'on pense du bonhomme.
Non, c'est pas quoi qu'on pense du bonhomme. Monsieur Le Pen, monsieur Jean-Marie Le Pen, n'est pas juste un adversaire politique, comme ça a été dit par monsieur Retailleau, ou même une grande figure de la vie politique française, comme
François
ça a
Bayrou.
Été dit par monsieur Bayrou. Monsieur Jean-Marie Le Pen est un ennemi de la République.
Il disait aussi, pardon, faut être précis, on savait en le combattant quel combattant il était, au-delà des polémiques qui étaient son âme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond. Voilà ce qu'a dit François Bayrou.
C'est un ennemi de la République.
Depuis janvier 1956, Jean-Marie Le Pen est député. Il a été élu sur les listes du mouvement populiste et anti-républicain de Pierre Poujade. C'est aussi un colonialiste convaincu qui n'hésite pas à prendre les armes pour défendre ses idées. 2 ans plus tôt, il s'est engagé comme lieutenant pendant la guerre d'Indochine. Pour le lieutenant député Le Pen, c'est aujourd'hui en Algérie que l'empire colonial français est menacé. Quand il débarque le 28 décembre 1956, c'est le début de la bataille d'Alger. En réponse à un attentat sanglant de partisans de l'Algérie française, les indépendantistes du FLN posent à leur tour des bombes dans des cafés et des restaurants fréquentés par les Européens. Le pouvoir politique confie alors les pleins pouvoirs à l'armée. C'est désormais la 10e division parachutiste du général Massu qui administre la ville. Sa mission, casser l'insurrection algéroise et démanteler les réseaux FLN à n'importe quel prix. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées, entre 3 et 4 000 vont disparaître corps et biens, et beaucoup seront torturés.
La bataille d'Alger, la singularité, c'est qu'effectivement, il y avait ce contexte, disons, d'urgence hein, sur le problème des bombes dans la ville, et qui fait qu'effectivement, l'utilisation de la torture a été massive, rapide et généralisée. C'est-à-dire que c'est la singularité aussi du contexte historique, sans vouloir justifier, bien entendu. C'est-à-dire que là, on a effectivement une pratique qui s'érige en système, de manière systématique, à partir de ce moment-là, dans un contexte, encore une fois, hein, bien précis, qui est celui du terrorisme hein, contre des civils hein, européens.
Pour lutter contre le terrorisme et anéantir le FLN, les descentes de paras se multiplient, de jour comme de nuit. Un climat de terreur s'installe, en particulier dans la Casbah, le cœur historique d'Alger où habite la population musulmane.
J'habite au 33 une fille ça, la Casbah. C'était la nuit du 2 ou 3 février vers minuit. On était à la maison en train de dormir. D'un coup, on attendait la porte qu'elle explosait. Et un groupe de militaires là, qui rentrait, qui criait « Allez, debout, debout !» en insultant. Il rentrait dans les chambres, il nous fait sortir. Tout le monde dort, tout le monde dort.
Mustapha Merwan avait 20 ans en 1957. C'était l'un des nombreux messagers du FLN. Il témoigne des tortures qu'il a subies dans la maison familiale, en même temps que son père.
Il y a les soldats avec leur mitraillette qui nous surveillaient. Ils étaient dehors, ils étaient dedans la maison, ils étaient en rond avec les femmes. Il n'y a rien. Mais quand il arrive le père, c'est là qu'on commençait à nous torturer. Et les fils, ils étaient branchés. Ils étaient branchés, là, il y avait une prise, je ne sais pas, en bas. Avec l'interrupteur, ils branchaient direct au sommier.
Ouais.
Il déclenchait.
Donc Le Pen, lui, il déclenchait.
Oui, c'est Le Pen qui déclenchait, oui. C'est Le Pen qui est déclenché. Il déclenchait Le Pen, mais quand je parlais quelque chose, hop, il arrêtait. Et il prenait des notes. C'est lui qui prenait des notes. Personne n'avait un compte.
Et après, il recommençait.
Oui, il recommençait trois quarts d'heure, 40 minutes, une heure. Et là, hop, il repart.
Écoutez, c'est opération d'interrogatoire dans l'appartement de la personne en question. Mais c'est invraisemblable. Mais
Monsieur Le Pen, tout de même, vous savez très bien qu'il y avait des tortures qui avaient lieu à domicile à cette époque-là, pendant la bataille d'Alger.
Non, je ne sais rien du tout de tout ça. Non,
c'est
pas du tout.
C'est une réalité.
Mais j'en sais rien, vous dites que c'est une réalité. Moi, je n'ai jamais été au courant d'interrogatoire qui ait eu lieu dans les domiciles des gens recherchés, jamais.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
À un moment donné, j'ai eu le sentiment que mon pays, l'Europe, la France, était en guerre avec le communisme, c'était la période de le moment de la guerre froide, et puis on se battait, des Français se battaient, très loin, à 18 000 kilomètres de chez nous, dans des conditions épouvantables. Ils menaient une guerre qui était ignorée du pays, ignorée des Français, avec un gouvernement qui les y avait engagés, mais qui ne les soutenait pas, et poignardé dans le dos par l'action du Parti communiste, dont je rappelle qu'il allait jusqu'à jeter les blessés qui revenaient d'Indochine hors des trains qui les transportaient. Et je me suis senti, là, appelé vers ceux dont je pensais qu'ils portaient avec eux l'honneur du pays, et par souci, ils souffraient le plus. Je croyais, moi, en la plus grande France. Et, eh bien, j'ai mis mes actes en conformité avec ma pensée. J'ai quitté le doctorat de sciences économiques que je faisais, et je me suis engagé au 1er bataillon étranger de parachutistes, où j'ai servi comme sous-lieutenant. Je suis allé en Indochine. Et dois-je rappeler aux Français qu'il y aura dans 10 jours 20 ans que dans la cuvette de Dien Bien Phu, quelques milliers d'hommes qui gardaient l'honneur et le drapeau sont morts ou ont été contraints à la capitulation. Je voudrais que cet avertissement qui fut donné dans notre histoire ne soit pas complètement oublié, car la suite des événements allait prouver qu'il était ô combien nécessaire. Et puis j'ai vu la rentrée du corps expéditionnaire du Tonkin en Cochinchine avec ces populations que nous abandonnions après leur avoir juré fidélité. Et quand je suis rentré en France en 1955, j'avais une grande colère politique contre un régime qui s'était couché dans la boue et de la défaite, la 4e République. Et je me suis lancé dans la bataille, j'ai été élu député à 27 ans et je me suis trouvé pratiquement leader d'un groupe politique lancé dans la bataille parlementaire à l'égal des leaders. Et puis c'est le moment où M. Guy Mollet, M. Mitran et M. Mendès-France ont envoyé le contingent en Algérie pour faire la guerre. Et j'ai estimé qu'il était de mon devoir de parlementaire, capable de porter les armes, d'y aller avec le contingent, puisque, dans le fond, j'étais d'accord pour préserver cette partie de la France et l'indépendance énergétique et politique de ce grand ensemble et du Sahara. Alors je suis allé avec eux, j'ai servi aux côtés de tous les camarades français qui y étaient. Je sais maintenant qu'on m'en fait reproche et que les gens qui m'en font reproche sont ceux qui portent la responsabilité de cette guerre. J'ai cru aussi, en 58, que un grand espoir était né. Et j'ai été vite déçu, car je me suis aperçu, une fois encore, que l'on ne tenait pas les promesses que l'on avait faites. J'ai été réélu député, j'ai été rapporteur du budget de la guerre, j'ai eu des responsabilités importantes et je me suis battu dans la fidélité des engagements de la France aux hommes, d'abord aux Français qui étaient là-bas et ensuite à tous ces Algériens à qui nous avions juré par la voix des plus éminents de nos chefs qu'ils resteraient Français à tout jamais. J'avais d'ailleurs, dans un autre temps, soutenu la candidature en 1957 d'un Français d'Algérie à Paris, comme un Breton ou un Basque. Et je crois que c'est tout à son honneur et au mien. Ce n'est pas nous qui avons fauté dans cette affaire. Et puis en 1962, eh bien, j'ai payé le prix de mon engagement politique. J'ai été battu aux élections.
Alors Fabrice Rissé-Putti, pour le dire très rapidement à celles et ceux pour qui c'est de la vieille histoire, nous sommes donc en 1956-1957, Jean-Marie Le Pen est député déjà, poujadiste. En décembre 56 et jusqu'à mars 57, en tant qu'engagé volontaire, il va rejoindre la bataille d'Alger, cette guerre à outrance, torture comprise, ordonnée par le pouvoir de l'époque, sous la 4e République. Le Premier ministre et le gouvernement, pour l'essentiel, est socialiste. Le Premier ministre s'appelle Guy Mollet. Et cet engagé volontaire, le lieutenant Le Pen, est au 1er régiment étranger parachutiste. Alors, ces faits sont connus. Au moment même, en 1957, à deux reprises, vous le rappelez au début du livre, Le Pen assume. Je n'ai rien à cacher, j'ai torturé. Il dit même à l'Assemblée nationale, pour certains de ceux qui me regardent, là, nombre de nos collègues, je pourrais passer pour être le mélange d'un officier SS et d'un agent de la Gestapo. Il assume. Alors pourquoi y revenir ? Le Pen a aujourd'hui 95 ans. Ces faits datent il y a 67 ans. Pourquoi y revenir aujourd'hui ?
Alors l'explication, le point de départ de ce livre, pour une fois, est assez simple. En mars 2022, avec comme des millions d'auditeurs de France Inter, j'ai entendu, dans une émission par ailleurs de bonne qualité, affirmer avec aplomb que Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé à Alger. Alors, je suis tombé de ma chaise, comme d'autres, et j'ai réalisé à ce moment-là que c'est les dernières révélations relatives au passé tortionnaire de Le Pen remontent à plus de 20 ans, que les différentes pièces du dossier qui ont été accumulées de 57 à 2002 n'ont jamais été rassemblées. Elles sont disponibles, si on fait des recherches, dans les archives de la presse. Voilà. Et que jamais aucun historien n'avait pris la peine de les réunir, de les analyser, de les replacer surtout dans le contexte extrêmement particulier qui est le contexte de la bataille d'Alger, hein, sur laquelle je travaille, moi, avec Malik Haral, notamment, depuis plusieurs années. Voilà. Donc, j'ai entrepris ce travail qui, à mon avis, est d'utilité publique, puisqu'on met à disposition des citoyens français une histoire qui a manifestement été oubliée par beaucoup aujourd'hui.
Problème de mémoire. Des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Je suis aigri par l'histoire, apprendre me fait mal à la tête. J'y arrive pas, ça m'embête, je suis aigri par l'histoire. Chaque pays a ses victoires, même s'il a eu ses défaites. Mais pour cacher les défaites, on nous raconte des histoires. Je n'ai pas de terroir, j'ai des tiroirs dans la tête, accrochés comme une casquette avec des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, du coup je me répète. 1-2-1-2, microphone check, 1-2-1-2, je pars. J'ai des problèmes de mémoire, l'école a fait des siennes pour que j'apprenne et j'apprenne, mais il ne reste qu'un trou noir. Pourtant j'ai espoir qu'un jour toutes les choses me reviennent et que je puisse être en bon terme avec ma saleté d'histoire. Mais j'ai des problèmes de mémoire, des questions qui font des graines, des questions qui me reviennent laissées longtemps au placard. Même les défaites ont leur gloire, la gloire est une défaite. Ça dépend de l'interprète, du pays, du regard, du pouvoir. L'histoire appartient à la plus grosse gâchette. Et pour celui qui objecte, la sienne est comme un bobard, un bobard. Car dans ce monde qui brade qu'une seule facette, même l'histoire se veut exclusive, fluette et avare. L'histoire nous raconte pas l'histoire, elle nous raconte la moitié des faits. L'autre moitié s'est faite couper la langue, son silence est crié. Dans l'antre du savoir, il manque des pièces, des vérités, des versions, une comparaison, une mémoire. Il y a les tortures et les rapes, elles sont ni morales ni saines. Mais quand elles se mutent, se taisent, l'histoire a comme une palave. Je navigue sur cette palave, Iseo, matelot pêche, matelot qui de sa pêche obtient des fossiles sans trace. La France a des problèmes de mémoire, elle connaît Malcolm X, mais pas France Fanon, pas le FLN. Connaît les blacks, mais pas les noirs. Diffuse les stories, cow-boy et indienne, mais de la tragédie, cow-boy et algérienne, faut rien savoir. Il y a des choses indicibles, c'est pas de l'histoire ancienne. Les canaques, personne n'enseigne, massacre Vendée et Bretagne. Il y a des choses qui datent sur l'esclavage et son règne. On débat pas mais on fête, et la fête cache les épaves. Tout le monde dit plus jamais ça, mais c'est de là comme malsaine. Les processus restent les mêmes à l'heure où tout le monde en parle. Tout le monde en parle comme d'un cas, une exception inhumaine. Ça rend les choses si lointaines et la mémoire devient femme. La République était là, à savoir si c'est la même. Elle change de numéro d'enseigne, d'adresse et de façade. Mais elle n'ose pas gratter en elle, elle refoule et elle s'enchaîne. Et tout ce qu'on nous enseigne, c'est que l'époque était malade. C'est que l'époque était malade, mais tu parles quand bien même. La maladie viendrait d'un système, tant qu'il pèse on sera malade. Devoir de mémoire, plus jamais ça, hein, et puis quoi. Quand on garde intact les liens, que la gangrène escalade. Les humains sont comme des arbres, ils ont des racines aux semelles. Pour certains ils sont lointaines, et ceux-là ils en ont marre. Que de leur lointaine histoire, plusieurs versions se démêlent. Pour atteindre les deux bouts, ils font tout seuls leur grand écart. Système assimilatoire, qu'ils créent des êtres à problème. Identité en gruyère, orphelin de leur mémoire. Vu qu'on passe à la passoire, les causes de tous nos mystères. Nos causes partent, restent les problèmes et tout ça crée des signards. Intégration à l'entonnoir qui prône un modèle unique. Pour ceux qui ont cette saleté de chance d'être multiple, au revoir. noir. Système assimilatoire, mise à nu des tuniques, mise à nu à l'identique et mise du voile à l'histoire. Mais l'histoire n'est ni sacrée ni unique pour un pays qui se dit laïque. Elle est sainte, extrémiste, un dieu auquel faut croire. Le pays a du mal à regarder ses chapitres, comme lui pluriel multiple nous laisse près les limites avec des problèmes de mémoire. Des problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire. Problèmes de mémoire.
Après ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches.
Du côté de Mainte...
Au lieu de voir des Arabes. Il y avait... Vous savez, moi, ça ne me gêne pas.
Ah oui, je sais que ça
Moi, j'ai pas peur de la poursuite. Là, je suis poursuivi, Alain Martin poursuivi. Je suis l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte d'SOS Racisme. Parce que j'ai dit que 90% des faits divers étaient le fait d'immigrés ou de descendants d'immigrés. Alors, ça, c'est pas permis de dire ça. C'est, si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage. Moi, je dérape plus de vieux. Moi, je suis hors piste depuis longtemps. Je suis en express, moi. Allez, à cheval. Allez.
C'est la vie qui veut ça, et sincèrement je serais pas. C'est sûr en aucun cas grand comme il l'état. Je roule en bas, allez là ça.
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu sens pas que ça pue, c'est l'état d'esprit qui apprête chez toi et pour moi. L'exclusion, c'est aussi simple que ça. C'est rien que du direct live et des choses qui évoluent pas. C'est les mêmes qu'en font les frères.
Le peuple subit, subira.
Le vent contraire d'un système impotent. Parce que trop lent de tout temps. Pour les problèmes latents, tant ignorer sauf quand faut se faire réélire. Mais attends, y'a pire. Si t'attends le réveil des foules, c'est du conspire. On nous tient à la gorge par le biais de grandes espérances. C'est comme ça que subsiste l'attentisme en France. Dans ce pays où on laisse passer l'intolérance sans se masser pour contrer les suppôts des survivants du passé.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette pierre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette pierre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner. Risé intempérie, Babylone m'étreint. J'ai des péris paumés à me demander où est le bon chemin. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est tout un tas près de chez moi à vouloir porter plainte. La populaire demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte. Qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Donner l'effet de serre, les auront à l'usure. Crilon, ça ne s'efface pas si sûr et non. Y'a trop de NTM peint sur les murs. Bloc par bloc, les cités débloquent. Le lascar moyen vide de troc, chasse le gaz, puis il débloque. C'est de plus en plus tôt qu'il sort son dard. Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie oblige, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite. Encore plus qu'en 68, va falloir se battre.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner.
Y'a qui cible dans les églises, les CRS peut faire des pères qui se profent chez nous. On se décivilise, on trompe quand on vise. Et puis s'il y a meurtre, on déguise l'affaire, on dit qu'il y a méprise. Technique de déguise, bien connu, tu restes reconnu, devenu quelque chose de convenu. Les pavillons sont au menu, je te souhaite la bienvenue dans la France de ceux qui pensent qu'en banlieue on peut pas penser, puisqu'on pense qu'à danser, rapper sur des beats cadencés. Marc qui pense cycler, 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés, donc c'est clair que c'est pas gagné. Qu'avec leur vision bornée, je me dis même que le mec qui adressera le pays, il est pas encore né. Ouais, c'est ici qu'on vit, et c'est ici aussi logique officie. La plus grande bande de fachos qui fissie. Peur en son temps fissi, on laisse couler, on est mort. Coupons les couilles du port. Tout ça c'est fort, mais y'a plus fort encore. Y'a des ex-nouveaux ministres grillés qui viennent parler, se faire réélire à la télé, briller, crier leur innocence riée. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric et non pas trier.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Luttant de voir le clan, le bloc va détonner.
C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner.
Faut tout donner, afin de changer les données. Luttant de voir le clan, le bloc va détonner.
Yeah, Jive pour l'afro, change les données. Good chaîne pour tout donner. Le R, quitte-le pour tout donner. R-O-B-O et la loco, le Glock va détonner. 9-3,
c'est arrivé près de chez toi. Presque sous ton nez. Pour un 9-9-8, non, pas le moment d'abandonner.
Faut changer les données.
Commençons, si vous le voulez bien, par ce qui constitue justement l'événement le plus récent, c'est-à-dire le meeting d'hier soir au Palais des Sports. Un meeting qui a mal tourné, comme on pouvait un petit peu s'y attendre. Trois forces en présence, les participants à la réunion d'ordre nouveau, les contre-manifestants gauchistes et un important service d'ordre. Des slogans, on en est rapidement passé aux affrontements à l'Incensès, des bagarres d'une violence d'ailleurs exceptionnelle, qui ont fait 80 blessés parmi le service d'ordre.
Dès 19h, le service d'ordre, d'ordre nouveau, renforcé par des militants du NPD, le parti néo-nazi allemand, était en place devant le Palais des Sports. Casque, matraque et longue lance à la japonaise. Dehors, les contre-manifestants gauchistes commencent à se rassembler et leur pression se fait assez vite forte. Ils attaquent le meeting à coups de boulon, à coups de pavé.
On est au début des années 70. Et François Duprat a une grande idée. Pour rendre l'extrême droite plus attrayante aux yeux des électeurs, il rêve de créer un nouveau mouvement, moins violent, à l'image plus modérée qu'Ordre Nouveau, et ainsi réunir les différents mouvements d'extrême droite. Le 5 octobre 1972, le rêve devient réalité. Le Front National pour l'Unité Française est né, avec à sa tête un homme jugé comme modéré parmi les parias qui composent ces mouvements. Cet homme, c'est Jean-Marie Le Pen.
Ça veut dire quelque chose, Le Pen ?
Oui, ça veut dire le chef. J'ai d'ailleurs là un dictionnaire français-breton du XVIIe siècle. Ça veut dire le chef et aussi la tête, la cime, le bout, la pointe, n'est-ce pas ?
Le Pen dépose lui-même les statuts du parti avec certains proches de l'époque. Parmi ses proches, un ami, Pierre Bousquet, le futur trésorier du parti, un homme condamné à mort à la libération, puis finalement gracié. Pourquoi condamné à mort ? Parce que lui aussi était un ancien Waffen-SS. Dans les rangs du Front National, on compte donc au départ d'anciens SS, d'anciens collabos, des royalistes ou encore des membres de l'OAS, l'organisation armée secrète, un groupe terroriste d'extrême droite. Deux ans après sa création, en 1974, le tout jeune parti se lance dans l'arène politique et présente la candidature de son président, Jean-Marie Le Pen, pour l'élection présidentielle. Face à lui, trois stars de la politique à l'époque, le candidat de centre-droite Valéry Giscard d'Estaing, le socialiste François Mitterrand et le gaulliste Jacques Chaban-Delmas. Pour le logo, l'équipe du FN ne va pas chercher bien loin et s'inspire très largement de la flamme tricolore du MSI, le Mouvement Social Italien, un parti fasciste très populaire à l'époque en Italie. Et quand je vous dis qu'il s'en inspire très largement, le Front National change juste le vert par du bleu. Sinon, c'est exactement la même chose.
Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles du MSI des néofascistes italien. Que faut-il en déduire ?
Moi, je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie.
Mais cette élection présidentielle de 1974, première candidature de Le Pen aux plus hautes fonctions de l'État, va être un véritable échec, du moins sur le plan des résultats électoraux. Valéry Giscard d'Estaing sera élu président de la République et le FN sera à peine remarqué puisque le candidat Le Pen n'obtiendra que 0,7% des suffrages. Malgré tout, le scrutin permet au Front National d'acquérir une certaine notoriété, en tout cas au sein de l'extrême droite française. Car si pour encore beaucoup de Français, le FN n'évoque pas grand-chose à la fin des années 70. Pour les habitués d'Ordre Nouveau et de la SERP, Jean-Marie Le Pen s'impose comme la figure du Front National.
Oh, ben, je sais pas, je suis grand, assez athlétique, blond, très
je crois, assez extraverti. Je me vois comme quelqu'un. Je sais pas, j'ai un surnom, on m'appelle le Menhir. Je me vois. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est une pierre levée, du granit debout. C'est un peu ça.
Mais le jeune parti politique, tout juste formé, commence déjà à déranger. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1976, Jean-Marie Le Pen est brusquement tiré du lit.
Miraculeux, incroyable, ces commentaires sont sur toutes les bouches ce matin, Villa-Poirier. Il faut dire que les dégâts sont énormes, cela tient plus du bombardement que du simple attentat. Et malgré cela, il n'y a eu que 6 blessés légers parmi les voisins, dont 4 enfants, c'est là le miracle. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. 12 appartements sont dévastés. L'immeuble étant désormais condamné, une trentaine de personnes devront être relogées, dont la famille Le Pen.
Vers 4h50, une bombe explose Villa Poirier dans le 15e arrondissement de Paris où habitent le président du Front National et sa famille. Jean-Marie Le Pen qualifie l'acte d'attentat pour tuer et la violence de l'explosion semble lui donner raison. Les 20 kilos d'explosifs détruisent toute une partie de l'immeuble de 5 étages. Le Pen, sa femme et ses 3 filles échappent de peu à la mort, parmi elles Marine Le Pen, 8 ans. Évidemment, l'événement traumatise la famille, mais quelques temps après, des journalistes font un lien qui donne une autre lecture à l'affaire. Et si cette tentative d'assassinat de Jean-Marie Le Pen et sa famille n'était au fond qu'une vulgaire affaire d'héritage? En effet, quelques semaines plus tôt, on apprenait dans la presse le décès d'Hubert Lambert, héritier richissime, proche des milieux d'extrême droite. Le couple Le Pen est attristé par la nouvelle, eux qui ont pris soin de ce célibataire au mental fragile. Mais cette tristesse ne va pas durer. En effet, quand l'homme décède, il lègue en fait toute sa fortune à Jean-Marie Le Pen. Et après une fine négociation avec les descendants, furieux de se voir déshérité, Le Pen devient multimillionnaire et propriétaire d'un hôtel particulier dans le domaine de Montretout, sur les hauteurs de Saint-Cloud. Désormais riche, Le Pen est à nouveau candidat aux élections législatives de 1978 et enchaîne les meetings. 4 ans sont passés depuis son échec à la présidentielle. Il a eu le temps de retaffer son discours. Et c'est décidé, il axera cette campagne autour d'un thème qui lui est cher, l'immigration. Son slogan, c'est François Duprat qui le trouve. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. La France et les Français d'abord. Et cette association entre chômage et immigration, ça peut nous sembler un peu surfait de nos jours. Mais à l'époque, le slogan est, il faut le dire, assez novateur. En fait, jusque-là, l'extrême droite avait toujours abordé la question de l'immigration sous l'angle racial, ethnique. Mais en 1978, il sera pour la première fois abordé par le prisme du coût social. Malgré tous ses efforts, le parti ne passe même pas la barre des 1%. Et surtout, la fin de campagne va être marquée par un drame pour le Front National. Le 18 mars 1978, la veille du second tour des élections législatives, François Duprat, l'un des fondateurs du FN, prend sa voiture à 8h40. Il roule quelques minutes quand une explosion pulvérise le véhicule. Duprat meurt sur le coup.
Et puis François Duprat, membre du bureau politique du Front National, a trouvé la mort ce matin, probablement victime d'un attentat. Peu de temps après qu'il ait quitté son domicile pour se rendre à son travail, sa voiture a été pulvérisée par une explosion.
Jean-Marie Le Pen est sous le choc et il va vivre pendant 5 ans une sorte de traversée du désert. À l'élection présidentielle de 1981, lui qui se croyait déjà au fond du trou, ne va même pas réussir à réunir les 500 précieux parrainages pour se porter officiellement candidat. Cette même élection est marquée par l'arrivée au pouvoir, pour la première fois de la 5ème République, d'un président socialiste en la personne de François Mitterrand. Une partie des électeurs de droite, déçus et inquiets par la montée de l'insécurité, les crises économiques et le développement de l'immigration, cherche une autre alternative. Quelques années plus tard, en 1983, une élection municipale a lieu à Dreux, une petite ville à une centaine de kilomètres de Paris. Et cette année restera marquée dans la mémoire de Jean-Marie Le Pen, car pour la première fois, la droite et l'extrême droite réussissent à s'allier. Alors, ça semble pas si dingue aujourd'hui, mais à l'époque, une alliance entre la droite républicaine et l'extrême droite, c'est du jamais vu. Des frontistes entrent donc au conseil municipal de Dreux et le Front National semble surfer sur un début de vague de popularité. Il faut dire que Jean-Marie Le Pen est de plus en plus invité sur les plateaux de télévision, ce qui n'était pas encore le cas quelques mois auparavant. En fait, en 1982, il se passe un événement que je trouve très intéressant. Le président du Front National décide de sortir sa plus belle plume pour écrire au président de la République de l'époque. François Mitterrand, fraîchement élu, reçoit donc comme ça, un jour, à l'Élysée, une lettre de Jean-Marie Le Pen qui se plaint de ne pas être invité dans les médias. Et contre toute attente, le nouveau président socialiste ordonne aux services publics et aux patrons de chaîne de faire respecter davantage le pluralisme politique et donc naturellement d'inviter ce cher monsieur Le Pen et ses idées aux heures de grande écoute. Les médias s'exécutent et réalisent que les audiences sont étonnamment bonnes. Il y a ceux qui aiment découvrir ce politicien qui n'a pas sa langue dans sa poche et ceux qui regardent pour commenter les dérapages plus atroces les uns que les autres du président du FN. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on dit que François Mitterrand a de l'estime pour le tribun Le Pen. Mais ce coup de pouce n'a rien de gratuit. Son objectif, médiatiser le FN et diviser la droite pour mieux régner. Le calcul politique est dangereux, mais payant, pour le Front National en tout cas. En 1984, Jean-Marie Le Pen participera même à l'émission L'Heure de Vérité, qui est juste le talk show politique star de l'époque. Après ce passage, le nombre de nouveaux adhérents explose au FN.
Notre estimation, du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
Le 21 avril 2002, c'est un coup de tonnerre qui vient déchirer la scène politique française. Avec 8 candidats de gauche, ce qu'on appellera plus tard la gauche plurielle, le trio de tête est extrêmement serré. Ainsi, avec seulement 16,9% des voix, Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. C'est une véritable onde de choc, les électeurs de gauche sont atterrés, Lionel Jospin, le candidat socialiste, que beaucoup voyaient comme opposant naturel de Jacques Chirac au second tour, à 0,7 points de Jean-Marie Le Pen, annonce se retirer de la vie politique.
J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.
Mais si le soir des résultats, la fille Le Pen, Marine, danse avec les militants, dans un petit bureau étroit, en privé, Jean-Marie Le Pen est amer. Ce résultat, lui non plus ne l'attendait pas. Et rien n'est prêt pour la suite des événements. Il faut dire que ce résultat arrive bien tard. L'homme a 74 ans et le parti subit de graves crises de l'intérieur. Si bien qu'il n'a pas un lieutenant à envoyer sur les plateaux de télévision pour le défendre. Alors, Marine Le Pen est tirée de la piste de danse. On la met dans un taxi, direction France Télévisions.
Il souffre beaucoup, monsieur Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, hein? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête? C'est vous, et c'est vous.
Moi?
Parce que vous, parce que...
Moi?
Parce que... Mais oui, bien sûr, votre
moi?
Parti...
Mais qui allez, parti, celle-là? Qu'est-ce que j'ai
RPR...
fait?
Pour la première fois de l'histoire politique française, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Le lendemain, la nouvelle fait la une de tous les journaux. Le choc pour Le Figaro, la bombe Le Pen pour François, et l'iconique non de libération. Pendant plusieurs jours, la France retient son souffle. Des manifestations sont organisées partout dans le pays pour protester contre le second tour de l'élection.
Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter mais pas pour se faire entendre.
C'est pas normal le deuxième tour, je suis désolé, c'est quelque chose qui devrait pas arriver. Et vraiment, faut que ça cesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous là et on va pas arrêter comme ça.
Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous, il n'y a plus de France.
Ceci n'est qu'une modeste page tournée.
Son cérémonial tellement rare.
Crois-tu être plus propre que moi? Que ce serait mieux s'ils étaient autres que moi? Faut croire que c'est ton heure, avril, vas-y, allez, croque ce mois. Y'en aura plus après ici-bas, c'est comme le close combat. Rien n'a changé, même discours, toujours les roses combat. Où est-ce qu'on va? Nos convictions inspirées, trahies par nos pères, certes, qui seront les premiers à se faire virer. Je me trouve là et la leçon brute que j'en ai retirée. C'est que ce pays est une grosse pompe qui rêve de se faire cirer. Je veux pas voir nos gosses à genoux en GAV devant les fils à broussard. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? J'ai pas le semble gars, je suis issu d'une famille modeste, immigré de Naples, malheureusement. On prend à retourner nos vestes. Ça paraît simple, on n'a pourtant pas de mal à faire commerce. La vie c'est ça, regarde comment nos pères et mères conversent. Électrochoc maintenant, admirant ce point de force converge. Mentalité de résistant face à celle de grosse concierge. Je garde le cap, car ton putain de cas mon père. Il rime avec mère et charter, ça gêne moi, je t'emmerde. Vivre ici, tu crois pas que j'ai bien la chance qu'on a. Mais moi je suis cash, j'ai pas question pour ça de vendre mon âme. Je braque mon arme, mon stylo et sa baffe saumâtre. Je prie mon maître pour qu'il éclaire ceux qui sont dans le coma. Je m'assume, végète pas dans une fosse jaunâtre. Mes gosses honnêtes croisent mon odoise et une sauce tomate. Où est-ce qu'on est? On joue perso quand on se frôlate. Le masque tombe et v'là la masse, là on doit tous combattre. Ça leur pète à la cabeça comme une sale grenade. Je refuse de laisser un centimètre de plus à cet engrenage.
Pas d'inclinaison de nos corps.
En temps de se manifeste.
Le jour noir qui suit la pluie du coin des gros ports.
Comme si nos races aient une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps.
En temps de se manifeste.
Le jour noir qui suit
depuis la vie victoire des gros porcs.
Comme c'est une racine plongée jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, test, manifeste. Depuis ce jour même l'air a l'air empoisonné. De nouveau cloisonné, à défaut de raisonner. On veut emprisonner, le trône a résonné. Le bouc émissaire désigné, ça suffit plus de nous isoler. J'ai vu morfler, s'égosiller, chantant la haine contre lui-même. Ça file la nausée, 400 ans de chaîne, ils ont rien mémorisé. Ils taffent en place à la mairie, donc ils seront à décolorisés. Dans le sillon creux, ils veulent nous voir ruisseler. Et en nous y poussant, espère que l'un d'eux dira les sceller. C'est bien le genre claqué qui tiendrait le fouet pour les négriers. Prêt à rapatrier l'horreur pour quelques poubelles grillées. Ils parlent d'honneur et de cœur, de mots qu'ils ont oubliés. Comme l'île de Corée, confirmant la tâche divisée pour régner. Potentiel dévalorisé, confiance volatilisée, principe atomisé. C'est le retour du temps décolonisé, traitant leur peuple de pas civilisé. En fait ce qu'ils visaient, être un bon boy comme ils disaient, en milieu autorisé.
Amenez vos camisoles, pas nos pensées, vous aurez pas le rôle. Le rôle de ceux qui vont nous enfoncer. Alors qu'on sait tout ce qui s'est passé des 33, des 33. Y'a rien qui change, Hitler aussi est passé droit avec toi. La voix du peuple, la voix maudite, celle que tue l'humanité. L'expression, la diversité, ce que sont nos cités. La voix de ceux qui veulent que la paix meurt. Qu'on se divise pour nos couleurs, pour qu'on vive le fureur. Faut croire que vous êtes la chambre plus tous autant que vous êtes. Ceux qui pensent que le mal se résout par le mal, peut-être. Là y'a plus de peut-être, ils ont voté pour un facho. C'est pas un vote contestataire quand on connaît Dachau.
Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps.
Entends ce manifeste.
Toujours noir qui suit la pluie victoire des gros porcs.
Comme si nos racines plongées jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps.
Entends ce manifeste.
Toujours noir qui suit la pluie victoire des gros porcs.
Comme si nos racines plongées jusqu'à Sodome et Gomorre.
L'encre, acre, atteste
manifeste.
Il ne s'agit pas réellement de venger le mal fait dans le passé, mais de parer celui qui nous menace dans l'avenir.
Anormal que quelqu'un d'aussi méchant ait vécu pendant 96 ans et eu le temps de faire passer ses idées pourries auprès de tous ces jeunes qui continuent à suivre ses traces.
Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à 96 ans à l'issue de décennies de vie politique et de scandales. Aux alentours de sa demeure emblématique du parc de Montretout à Saint-Cloud, les voisins et passants se sont montrés on ne peut plus mitigés en réaction à sa mort.
Je crois que j'ai dû avoir deux occasions de l'aider. En poussant sa voiture parce qu'il était en panne d'essence. Par contre, on voit un peu plus sa petite fille, Madame Marion.
Là, on est juste à côté de chez lui, là, de passer à côté, ça vous...
Ah, j'ai mal au ventre à chaque fois.
C'est vrai?
Je peux pas. Je suis suivie à l'Institut Curie pour un cancer. Je me gare toujours de l'autre côté, loin, parce que je peux pas. Le symbole est trop fort. J'ai qu'une envie, c'est de vomir. Je pense à mon grand-père, né en 1907, qui a fait la guerre, qui ce soir aurait fait comme nous, aurait sorti une bouteille de champagne.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de respecter le fait qu'il soit décédé, tout simplement, et que même si on n'est pas d'accord avec les idées qu'il a pu avoir dans le passé ou ce qu'il a pu dire, de respecter quand même, à minima, son décès.
Pas de soulagement, juste j'ai pas d'émotion et... J'en ai un peu rien à faire malheureusement.
En fait, pas de soulagement parce qu'il n'a pas d'impact en fait maintenant dans notre vie. Après moi, c'est plus via les médias que j'ai appris ce qu'il a fait parce que j'étais pas encore née, je pense.
J'espère qu'on va en profiter pour reparler de ce qu'il a fait, de ce qu'est le Front National, enfin maintenant on appelle ça le Rassemblement National, et qu'on se souvienne des gens qui sont dans cette communauté, ses idées, parce que c'est toujours les mêmes qui sont là et que c'est très inquiétant. C'est à cause de lui que j'ai fait mes premières manifs quand il était au second tour. Je m'en souviens, j'étais étudiant. Je préfère avoir Mylène Farmer à Montretout que Jean-Marie.
Parce qu'il habite là aussi.
Oui, et Jean Dujardin aussi.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national.
Porcherie! Porcherie! Porcherie!